Tamani, voici nos informations en français.
On est vendredi 11 janvier 2019, il est 18h, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, les titres. Qu'on a 6 ans après l'attaque de la ville par des djihadistes le 10 janvier 2013, la bataille pour la reconquête de la ville menée par l'opération française Serval et les soldats maliens a coûté la vie à plus d'une soixantaine de personnes, un bilan humain non exhaustif selon d'autres sources. Une vingtaine de djihadistes de la Katiba Serma neutralisés dans un raid mené par la force Barkhane et l'armée malienne à Boni dans la région de Mopti. Le bilan fait également état d'une base d'entraînement djihadiste détruite et un véhicule saisi. Depuis le début de la crise, le secteur artisanat fait face à d'énormes difficultés. Dans le cercle de Kita, les artisans locaux déplorent l'arrêt des activités et ne savent plus à quel sein se vouer. Le développement avec Adama Amadou Haïdara. Bonsoir à tous et bienvenue. Hier 10 janvier 2019, voilà 6 ans que la ville de Kona tombait aux mains des djihadistes. La bataille pour la reconquête de la ville menée par l'opération française Serval et les soldats maliens a mis un coup d'arrêt à l'expansion des djihadistes. Des sources militaires affirment que la reconquête a coûté la vie à plus d'une soixantaine de soldats maliens. Un bilan non exhaustif selon d'autres sources. Maria Maïga pour plus de détails.
Les séquelles de la bataille de Kona sont encore visibles dans la ville et sur des soldats maliens. Ce jour-là, un jeudi 10 janvier 2013, des combats intenses ont eu lieu entre des militaires maliens et des combattants des groupes djihadistes du Moudjahou, d'Ansardine et Acmi. Parmi les rescapés militaires figure Amadou Bayboli, un soldat de deuxième classe de la 6e région militaire de Sévaré. 6 ans après, il revient sur les événements.
À l'époque, donc nous sommes engagés volontaires avec un groupement que Abbas avait mis en place qui était le GCV, les commandos volontaires. Et notre combat était vraiment de stopper l'avancée des djihadistes à Kona.
Au cours des combats, Amadou Bayboli s'est cassé les jambes. Et malgré ses blessures, ses frères d'armes l'ont escorté jusqu'à l'hôpital de Sévaré.
En sortant de Kona, donc les djihadistes avaient mené 2 km d'embuscade. C'était pas facile de sortir. Donc pour franchir cette embuscade, j'ai vu des collègues engagés. Ils voulaient coûte que coûte nous sauver. Ils se sont donné leur vie afin de nous amener à l'hôpital.
Touché par ce qu'il a vécu, Amadou Bayboli a rendu sa démission de l'armée. Aujourd'hui, il a ouvert un commerce à Sévaré, sa ville natale.
Le système ne me plaisait pas. En 2010, j'ai pris l'initiative donc de mettre une entreprise en place, Bollywood Service, qui consiste à vendre des carburants, qui fait des recharges téléphoniques. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vis de cette entreprise.
Le 11 janvier 2013, la ville de Kona a été sous contrôle des soldats maliens avec l'appui de l'opération française Serval. La ville a érigé un monument en la mémoire de Damien Boiteux, le premier soldat français tué au cours des combats.
6 ans après la libération de Kona des mains des groupes djihadistes, la psychose règne toujours dans la ville. La population est partagée entre la peur et l'inquiétude et toutes les activités de la ville sont paralysées à cause de l'insécurité, nous disent des élus locaux de la localité. Sori Diakité, ancien maire de Kona, est joint par Oumar Ouégalo.
Notre ville, elle est là, seulement que nous vivons dans la psychose et que vraiment on a du mal à nous mouvoir. Les motos ne circulent pas, le commerce n'est plus florissant. Le mouvement, c'est pas facile, il y a l'insécurité. Tout le monde est là dans cette psychose parce qu'on ne croit à rien. C'est ce problème que nous avions aujourd'hui.
Quels sont les dispositifs sécuritaires mis en place?
Il y a près de 600 jeunes qui patrouillent. La brigade de la marche par quartier. Chaque quartier doit donner un nombre important de jeunes qui doivent patrouiller parmi eux. Ça continue et ça persiste. Et bientôt, 4 à 5 mois, le gouvernement a mis en place un contingent de 100 personnes, je crois, des gardes pour pouvoir sécuriser la ville qui sont là sur place.
Et réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook et notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Destruction d'une base d'entraînement des djihadistes, une vingtaine de terroristes capturés et des véhicules saisis. C'est le bilan d'une opération de ratissage de la force Barkhane menée avec les forces armées maliennes dans la forêt de Serma, située à Boni, dans la région de Mopti. Ces opérations s'y sont déroulées entre le 4 et le 9 janvier dernier. Les détails avec Hamadou Hamomega.
Ces opérations ont commencé le week-end dernier dans la forêt de Serma à Boni. Elles visaient une katiba de terroristes qui opéraient dans cette localité du centre du pays. pays. Menée par les militaires de la force Barkhane en collaboration avec les forces de sécurité maliennes, ces missions de ratissage ont permis, selon les sources militaires, la découverte d'un camp logistique et d'entraînement des djihadistes, du matériel de fabrication de bombes artisanales et la saisie de plusieurs véhicules. Selon des militaires français, ces actions ont également permis de neutraliser une vingtaine de terroristes, dont un cadre de la Katiba ainsi que sa garde rapprochée. Ces derniers ont été rapidement exfiltrés par hélicoptère, expliquent les mêmes sources. Au même moment, dans une déclaration, le groupe djihadiste Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin accuse la France d'aggraver les conflits intercommunautaires qui sévissent dans la région de Mopti. En plus de cela, les groupes djihadistes dans ce document appellent les milices d'autodéfense présentes dans la zone à ne pas accepter le désarmement proposé par le gouvernement du Mali.
La grève de 3 jours de la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, prend fin ce soir à minuit. Selon ses responsables, elle a été largement observée à l'intérieur du pays, ainsi que dans les représentations diplomatiques et autres services maliens dans les pays voisins. 24e jour de grève de la faim des cheminots et toujours pas de consensus. Cette période de grève a enregistré des faits marquant la vie des grévistes. La santé de certains cheminots s'est sévèrement détériorée et 2 membres ont perdu des proches dans des conditions précaires. Le point avec Mahamad Babakunta.
Selon le secrétaire général du syndicat, cette grève a eu de graves conséquences sur la vie de ses militants, notamment sur les plans sanitaires. Selon lui, 4 grévistes sont tombés malades, dont un cas sévère. Ce dernier a été amené sur décision médicale vers l'hôpital à Gabriel Touré, affirme-t-il. Mahamad Kenta ajoute également que durant cette période de grève, des graves répercussions ont été enregistrées dans leur quotidien. Des cheminots ont perdu des enfants dans des conditions précaires. Seul Dieu a le pouvoir sur la vie. Mais ces enfants n'ont pas bénéficié d'une prise en charge sanitaire faute des moyens, affirme ce cheminot Moussa Keita Diyao, père ayant perdu son bébé la 2e semaine de la grève de la faim. Un autre gréviste également, du nom de Matrin Keita, a connu le même sort le 27 décembre 2018. Toutefois, les grévistes de la faim tiennent toujours. Installés sur le site de la fraîcheur, ils comptent maintenir les mouvements jusqu'au paiement total de leurs 9 mois de salaire qui s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Cette grève a été déclenchée depuis le 18 décembre 2018 et elle concerne plus de 400 travailleurs, précise le secrétaire général.
On l'avait annoncé dans les titres, comme dans plusieurs localités du pays, l'artisanat à Kita reste confronté à de nombreuses difficultés. Près de 7 ans que le secteur est complètement à l'arrêt et les artisans ne savent plus à quel sein se vouer. Les autorités locales affirment qu'elles font de leur mieux. Selon elles, les artisans ne sont nullement oubliés dans leur programme de développement. De Kita, nous retrouvons notre correspondant Moussa Diakité.
Vraiment, les difficultés sont énormes. Avec le problème du Nord, là, bon, on a tout perdu, les pistes.
C'est le cri de détresse que lance chaque artisan à Kita. L'artisanat ne marche plus. Et pourtant, le constat est clair. Ce secteur où évoluent des milliers de personnes dans la commune est en léthargie depuis la crise de 2012. Mamadou Kodjo, président de l'Union des organisations artisanes de Kita.
On est très nombreux ici, 52 associations. Et on a le savoir-faire. Là, vraiment, les difficultés sont énormes.
Autre, l'arrêt des activités dans le cercle. Les artisans de Kita ont aujourd'hui d'autres préoccupations afin de relancer le secteur. Mamadou Kodjo, président de l'Union des organisations artisanes de Kita.
Mon souhait était que nous puissions avoir une cité artisanale à Kita ici pour que les gens puissent retrouver plus facilement l'artisanat parce qu'on est éparpillé partout à travers la ville. Organiser une foire artisanale à Kita afin que les gens sachent que l'artisan c'est Kita.
Le conseil communal affirme avoir déjà pris en compte les préoccupations de l'artisanat dans son plan de développement économique 2018-2022. Mais il souhaite l'accompagnement des partenaires financiers face à l'insuffisance de ses ressources. Chaka Doumbia, secrétaire général de la mairie de la commune urbaine de Kita.
On a mis l'artisanat, le sport et la culture dans le même volet, dans le PDSEC. Donc l'ensemble de ces domaines-là occupe à peu près 14% des activités du PDSEC pour un montant total de 270 millions. Mais les recettes de la commune ne nous permettent pas aujourd'hui de faire une réalisation d'une telle valeur. Donc, on mise sur les partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur de la commune.
De Kita, Fode Moussa Diakité pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Les échos de nos régions à Koulikoro, les Maliens vivant en insécurité alimentaire ont passé de 291 000 à 80 000 de juin à septembre 2018. Cette information a été révélée hier lors de la conférence débat sur le thème « Les enjeux de la sécurité alimentaire face à la crise du nord du Mali » organisée par le Forum des jeunes intellectuels de l'IPR IFRA. La rencontre avait pour objectif d'édifier les étudiants sur l'impact de la crise malienne. La coopération technique allemande GIZ à travers son projet Procaï a entamé hier l'installation des cages flottantes sur le fleuve Niger au niveau des villages de Dar Salam Massina, Doussoukane et Kouloun. Une soixantaine de jeunes bénéficient de ces cages pour mener à bien leurs activités de pisciculture. On termine avec un Songo où deux hommes suspects ont été arrêtés hier vers 18h à Karou par l'armée malienne en patrouille dans la zone de Ouattagouna sur la route de Labezanga. Les deux suspects ont été conduits à la gendarmerie de Labezanga. Selon des sources locales, la zone de Ouattagouna est infestée par des bandits armés. Dans quelques instants, le grand dialogue. Bonsoir Mohamedou Touré. C'est quoi le thème de ce soir?
Bonsoir Dama Amadou Haïdara. Alors le débat que nous proposons aux auditeurs ce soir a été enregistré à Ségou dans le cadre de notre projet Droits des femmes en partenariat avec IMRAP avec un financement de l'Union européenne et le thème c'est polémique autour de l'autonomisation des femmes au Mali, quelles sont les raisons? Nos invités sont Moussa Traoré, représentant des chefs de village de Ségou, Mamadou Chérif Diawara, membre de la société civile de Ségou, Madame Sissawo Kadia Alima Tandja, directrice de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et le débat se fera en langue nationale Bamanankan.
Merci et bon débat. C'est la fin de cette édition d'information. La mise en onde a été assurée par Gagny Kanté. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le magazine.